C'est aujourd'hui la fête des mères. Et pour la circonstance, je voudrais vraiment, vous les mamans, vous mettre à l'honneur. Et pour la circonstance, parler de certaines femmes, de la Bible qui ont été remarquables de par leur foi qu'elles ont mise à valoir. L'attitude de ces femmes sont capables encore ce matin de nous instruire, de nous enseigner, de nous inspirer concernant nos vies personnelles, notre marche avec le Seigneur. Aussi, permettez-moi de vous donner trois exemples de femmes de foi remarquables. Trois exemples de femmes qui, à un moment donné, ont manifesté une foi et cette foi leur a permis d'en voir et d'en recueillir les fruits. Et pour cela, je vous invite à ouvrir avec moi le livre d'Hébreux. L'épître aux Hébreux, au chapitre 11. Eh oui, c'est ça. Au chapitre 11. L'auteur, on ne sait pas trop, il y a plusieurs pistes pour ce livre d'Hébreux, mais on sait qu'il est inspiré puisqu'il se retrouve dans le canon donc des Écritures. Et on se rend compte que ce frère, cet auteur de ce livre, a voulu, au travers de ce chapitre 11, énumérer un listing des différents héros de la foi. Il commence par exemple au verset 1 et il rappelle un petit peu ce qu'est la nature de notre foi. Comme une définition, la foi c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance des choses qu'on espère, ça c'est notre part. Être convaincu que le Dieu d'espérance, le Dieu Tout-Puissant est capable d'intervenir. Et puis la démonstration de celles qu'on ne voit pas, ça c'est la part de Dieu. Et ne pas essayer d'aider Dieu. Il s'engage à pouvoir manifester et appeler ce qui n'était pas, et ce qui était jusqu'alors visible, invisible, l'amener à une pleine réalité. Mais pourvu que nous soyons fermes et confiants dans ce Dieu Tout-Puissant. Et dans ce chapitre 11, juste après ce verset 1, l'auteur commence à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à énumérer un listing de différents héros de la foi. Et justement, au travers de ce listing, on retrouve aussi le cas de certaines femmes qui ont manifesté la foi. Que Dieu soit béni, j'aurais aimé que les femmes disent Amen là. Et la première de ces trois femmes que j'aimerais partager avec vous et qui se retrouve dans ce chapitre 11, c'est Sarah. Et Sarah, nous retrouvons son exemple dans Hébreux chapitre 11, le verset 11. Et nous lisons ensemble cette réalité concernant cette femme. Il nous est dit, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait quoi ? La promesse. Oh, j'aime particulièrement ce verset 11. Je ne sais pas pour vous, parce que pour moi, ce verset 11, il correspond aussi à une autre définition de ce qu'est la foi. Qu'est-ce que la foi ? La foi, finalement, c'est aussi, entre autres, croire à la fidélité de celui qui fait et qui nous donne des promesses. Et ce Dieu-là qui fait les promesses, qui nous accorde des promesses, ce n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils d'homme pour se repentir. Jamais Dieu a trompé quelqu'un. Hier, avec les ados, on était tous d'accord de dire qu'aucune tentation vient de Dieu. C'est jamais Dieu qui nous tente. Le mal ne peut pas venir de Dieu, c'est impossible. Parce que Dieu est amour. Sa nature ne permet même pas que la tentation même vienne l'atteindre. Alors, à plus forte raison, il ne tente personne. Et quand il nous promet une chose, croyez-moi, il veillera à pouvoir l'accomplir dans nos vies et c'est pour cela qu'on peut se reposer sur sa personne. La foi donc consiste à croire à la fidélité d'un Dieu qui fait la promesse mais aussi qui veille à pouvoir l'accomplir. Et Sarah et son mari, Abraham, ont tous deux constaté cette vérité. En effet, alors que Sarah était stérile et puis avancée en âge, vous savez qu'à l'époque, elle avait environ 90 ans et son mari avait 10 ans de plus, donc 100 ans. C'est à ce moment précis-là que Dieu est venu leur annoncer une promesse, une bonne nouvelle. Quelle était cette bonne nouvelle ? C'est que Sarah, elle qui était stérile, allait enfanter un fils. Et Dieu avait déjà tout préparé. Il lui a dit, mais tu lui donneras le nom donc d'Isaac. Et comprenez bien, alors ce serait trop long pour pouvoir le lire eh bien ce matin, qu'à ce moment-là, Sarah qui commençait à préparer la cuisine à côté, Dieu par l'intermédiaire eh bien d'ange était en train de parler avec eh bien Abraham. Eh bien quand Sarah a entendu cela, la Bible nous dit que Sarah, elle a ri. C'était pas un rire moqueur, hein. C'était un rire nerveux. Parce que à ce moment-là, quand elle a entendu ça, je crois que même l'ail et le couteau qui étaient dans ses mains sont tombés par terre. Elle dit, mais c'est pas possible. Son esprit même avait du mal à pouvoir imprimer, comprendre ce que Dieu était en train de leur promettre. Humainement parlant, c'était impossible qu'elle, c'est-à-dire Sarah et son mari, puissent concevoir un enfant. Cette promesse semblait tellement inappropriée par rapport à la circonstance qui les entourait. Ils étaient avancés en âge. Ça ne leur venait même pas à l'esprit. Pour eux, c'était page tournée. C'était un rire qui traduisait l'étonnement de Sarah. Et cela me rappelle un peu une expérience personnelle. Je pense que je l'ai déjà partagée ici. Vous savez, on a eu un couple qui est passé dernièrement, le couple Bordeneuve, qui nous a expliqué un petit peu le travail qui se fait là-bas au Niger. Et à l'époque, ce couple était passé donc dans notre église, ça se passait sur Toulouse. Et du haut de l'estrade, notre sœur Joëlle Bordeneuve expliquait s'il y avait dans l'auditoire des personnes qui aimeraient venir en mission pour quelques jours, voir d'un peu plus près, toucher d'un peu plus près l'œuvre de Dieu, eh bien qu'ils se manifestent parce qu'ils avaient préparé un voyage. Et sur le coup, mais moi ça m'avait plu. C'est beau d'aller voir aussi à l'extérieur comment Dieu agit, parce que c'est le même. Eh bien, hier, aujourd'hui, éternellement, mais c'est le même eh bien, sur toute la surface de la terre. Et je me rappelle, eh bien, juste à l'issue de ce culte, je me suis retrouvé chez moi, et là j'étais en train de louer le Seigneur. Je ne pensais plus à cette proposition que nous avait faite Joëlle Bordeneuve. Et j'étais en train de louer le Seigneur au beau milieu de ma salle à manger. J'étais seul, je n'étais pas encore marié, je n'avais pas encore rencontré la plus belle des femmes. Et au beau milieu de ce temps de louange où j'étais à genoux, je levais les mains, je vous le dis comme je l'ai entendu, Dieu m'a parlé et il m'a dit, Joël, tu iras à ce voyage au Niger. Et là, sur le coup, j'ai moi aussi ri. Alors, Paris, mais je savais à l'instant, à la minute, à la seconde près, que c'était Dieu, mon Père Céleste, qui m'avait parlé. Mais j'ai ri parce que j'ai dit, mais Seigneur, mais comment pourrais-je y aller même financièrement, c'est impossible. Mais voyez-vous, avec Dieu, lorsqu'il a un projet pour nous, lorsqu'il a une vision pour nous, il a aussi la provision. Et vous savez qu'est-ce qui m'a financé le voyage? Monsieur les impôts. J'ai reçu quelques jours après une lettre des impôts et m'indiquant que, écoutez monsieur, excusez-nous, on a eu un trop perçu de votre part, alors nous vous rendons telle somme. La somme a permis de payer non seulement le billet, mais aussi d'avoir de l'argent pour vivre tout le séjour là-bas. Dieu pourvoit. Quand il dit une chose, lui veille à pouvoir l'accomplir. Vous savez, notre problème, c'est souvent qu'on raisonne. Et on a besoin de peut-être réaliser tout à nouveau ce conseil que nous donne le roi Salomon quand il dit dans Proverbes chapitre 3, verset 5, cette phrase très simple, mais qui en dit long, « Confie-toi en l'Éternel, mais de grâce de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Autrement dit, ne t'appuie pas sur tes raisonnements. Mais comment cela peut-il se faire? Mais comment? C'est humain, hein, c'est humain, je vous rassure, hein. Tous ces questionnements, mets-les de côté et fais tout simplement confiance à Dieu. Il ouvre les portes qui jusqu'alors étaient fermées. Il est le Dieu de l'impossible. Il a fait traverser tout un peuple. Ils étaient des millions à pouvoir traverser la mer Rouge, mes amis, à pied sec. Et juste après, le peuple égyptien a été englouti bien par cette eau. L'eau de la mer Rouge, vous savez de quoi je veux parler. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et c'est ce qu'a fait Sarah. Malgré ses interrogations, malgré son âge avancé, malgré sa stérilité, qu'est-ce qu'elle a choisi de faire? Elle a choisi de miser sur Dieu. Je vois, il y a des gens, ils misent sur tellement de choses dans ce bas monde. Il y en a, ils vont aller gratter pour essayer de gagner quelque argent. Ils misent. On mise sur la politique, parce qu'aujourd'hui, il faut vite courir. Hein, dans les urnes, auprès des urnes. Mais nous, peuple de Dieu, on a misé sur le Seigneur. Et on ne sera jamais déçu. Fie-toi en l'Éternel, confie-toi en l'Éternel. Appuie, repose-toi sur celui qui fait les promesses, mais aussi qui veille à pouvoir les accomplir. Et je l'ai dit, Sarah, ainsi que eh bien, son mari, eh bien, Abraham, n'ont pas été déçus. Parce que non seulement le miracle s'est accompli, Sarah fut enceinte. Alors imaginez-vous cette dame qui avait plus de 90 ans, enceinte. Oh, c'était le sujet de polémique, hein. Il y avait certainement un journal qui circulait dans la région et en grande page, Sarah est enceinte. C'était le miracle de Dieu. C'était la promesse de Dieu qui s'accomplissait. Isaac. Et plus tard, vous le savez, de la postérité eh bien, d'Isaac, eh bien, est sorti même littéralement des nations, ce que Dieu avait également promis. Des rois sont sortis eh bien, finalement du sein eh bien, de Sarah, parce que Dieu, c'est un grand Dieu. Peut-être que Dieu t'a donné une promesse précise. Pourtant, paradoxalement, eh bien, toutes les circonstances qui t'entourent semblent ne pas correspondre ou corroborer à la promesse que Dieu t'a faite. Je veux te dire de la part de Dieu ce matin, continue à espérer en Dieu. Jusqu'au bout, sois ferme, in extremis. Le Seigneur, il n'est jamais en retard et jamais en avance. Mais au bon moment, il déclenche les choses. Et il nous rappelle même, peut-être même des promesses qu'on avait oubliées et nous rafraîchit la mémoire parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu, il est Dieu et il aime bien sûr accomplir tout ce que sa bouche peut prononcer. Et je le dis parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il a commencé en nous, il l'achèvera parfaitement. C'est Paul qui l'a dit quand on lit Philippiens chapitre 1 et le verset 6, ne le cherchez pas, Philippiens chapitre 1 verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, qu'est-ce qu'il fera ? Il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Vous savez, depuis qu'on a donné notre cœur au Seigneur, il y a un travail qui s'opère. Et ce travail, c'est eh bien, la parole de Dieu qui s'en charge, mais aussi l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Alors c'est un mot qu'on n'aime pas trop, hein, mais je le dis quand même. Je ne suis pas venu pour plaire aux hommes. Je suis venu dire ce que Dieu me dit de faire et de dire. Nous avons besoin de comprendre que pour entrer dans ce ciel de gloire, où tout est glorieux, on a chanté la gloire ce matin, et je bénis le Seigneur pour cela, parce qu'on y arrive. Tout est gloire là-haut, il n'y a rien d'impur, rien de souillé. Et pour cela, il nous faut nous préparer, et on le fait avec un cœur joyeux. Ce n'est pas une contrainte d'aimer la propreté, ce n'est pas une contrainte d'aimer la sainteté, ce n'est pas une contrainte de se laisser émonder, parce que depuis notre conversion, Dieu commence à nous émonder. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, parce que nous sommes ses enfants, il le fait, hein, parce qu'il nous aime. On ne se dit pas avec mon épouse, allez, viens, on va éduquer les enfants. C'est naturel, on veut le bien, on veut le meilleur pour nos enfants, ou non ? Et quand c'est pas bien, eh bien on les corrige. Quand c'est bien, eh bien on les félicite. Il fait pareil, il émonde nos caractères, il émonde eh bien, peut-être nos attitudes, tout ce qui a besoin eh bien, d'être sanctifié dans nos vies. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'occupe de notre personnalité, il ne change pas notre personnalité. Dieu nous a créés uniques. Et il faut rester soi-même. Mais cette personnalité, quelquefois, elle a besoin d'être sanctifiée. On veut réagir comme Christ l'aurait fait à notre place, dans la circonstance dans laquelle nous nous trouvons. Il émonde et il extirpe même nos faiblesses, nos lacunes, nos mauvaises attitudes. Qui n'a pas encore des choses à émonder ? Levez la main. Et de suite dans la foulée, on va prendre un rendez-vous. Merci pour ta fidélité, Seigneur. On a pris un passage ces derniers dimanches, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24. J'aimerais le retrouver devant vous. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est important, le verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera, c'est lui qui continuera à travailler nos cœurs parce qu'il nous en a fait la promesse que Dieu soit béni. Alors première maman, première femme, c'était donc Sarah. Mais quand on parcourt encore ce chapitre 11 du livre d'Hébreux, on découvre une autre maman, une autre femme qui elle aussi a été remarquable à cause de la foi qu'elle a manifestée. Et cette autre femme, c'est ni plus ni moins la mère de Moïse. Tiens, comment s'appelait la mère de Moïse ? Comment ? Yokebed, qui a dit ça ? François, tu es sûr ? C'est ton dernier mot ? Hébreux chapitre 11 et le verset 23, on va lire ensemble. Hébreux chapitre 11 et le verset 23, et notre frère a parfaitement raison. Et nous lisons ensemble ce qu'il est dit concernant cette deuxième femme. qui ne peut que nous instruire ce matin. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre, l'ordre du roi. Tout est dit là. Ah mais Joël, je ne vois pas Jochébède. Mais Jochébède, c'est sous-entendu. On a dit, pendant 3 mois, Moïse a été caché par ses parents. Et effectivement, les parents de Moïse, c'était ni plus ni moins Jochébède, la maman à Moïse, et puis Amram, le père de Moïse. Moïse faisait partie d'une fratrie de 3 enfants, puisque les enfants, donc ses deux premiers frères et sœurs, c'était donc Aaron et puis Marie. Et ne voilà-t-il pas que Moïse est sur le point de naître et Jochébed est devant un dilemme, devant un problème avec son mari. Faut-il écouter et craindre l'ordre du roi qui demandait à cette époque-là que tous les enfants nouveau-nés mâles des Hébreux soient exterminés? C'est le temps qui nous manquerait pour relire toute cette histoire. Relisez chez vous Exode chapitre 2. C'est terrible. Tiens, je vous pose une question. Est-ce que vous connaissez la signification du nom Jochébed? Amram, ça veut dire peuple élevé. Mais Jochébed, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'Éternel est gloire. Il est glorifié. Jochébed veut dire gloire de l'Éternel. Et on a chanté à plusieurs reprises ce matin, « Je donne gloire à l'Éternel ». Et quelque part, nous allons voir, c'est le cas de le dire, cette maman, à cause de sa foi, a vu la gloire de Dieu littéralement se manifester. Autour de sa personne, autour de sa famille. Jochébède, la maman de Moïse, est un des exemples les plus remarquables concernant la foi. Elle enfanta son fils Moïse dans un contexte qui était très, très hostile. Puisque je vous l'ai dit, le pharaon, qui était considéré à l'époque comme un dieu, il avait décrété que tous les fils, les nouveau-nés mâles des Hébreux soient exterminés. Il avait de même demandé aux sages femmes des Hébreux de pouvoir, lorsque les femmes hébreues accouchaient, de pouvoir tuer. Si c'est un homme, tue. En un mot, faire l'avortement. Et je suppose, le texte ne le dit pas, mais il y avait certainement une milice qui était là, donc des soldats égyptiens, pour veiller à ce que l'ordre du roi soit exécuté. Bref, tout cela pour dire que ce couple, et particulièrement cette maman, qui est forcément attachée à son petit qui venait de naître, était devant un réel défi. Qu'allait-elle faire? Qu'allions-nous faire à sa place? Merci Seigneur, on est en France, on a des lois, mais il y a des endroits, il y a des pays où on ne peut pas faire ce qu'on veut en tant que chrétien. Il y avait un véritable défi devant Jochébed et son mari Amram. Mais Jochébed et son mari ont par la foi relevé ce défi. Et peut-être même au péril de leur vie, ils ont pris l'initiative de ne pas obéir à l'ordre du roi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont non seulement donc enfanté ce fils, mais mieux encore, ils l'ont caché, gardé pendant 3 mois. Il fallait veiller pour que l'enfant ne crie pas trop, pour vérifier, pour ne pas que les soldats puissent vérifier ou contrôler si c'était bien un garçon, si c'était bien une fille. Si c'était un garçon, il était liquidé. Au péril de leur vie, parce que de toute façon, si on découvrait le stratagème, toute la famille serait liquidée. Comme la situation devenait de plus en plus dangereuse, Jochébède, elle décide de faire autre chose. Après les 3 mois qui sont passés, elle est partie. Elle a conçu donc, un couffin, on va dire, un espèce de panier, qu'elle a enduit de bitume et de poids. Tout ça, c'est écrit dans Exode chapitre 2, les premiers versets. Et à un moment donné, elle a fait quelque chose qui peut être étonnant. Elle a déposé le petit Moïse, qui n'avait que quelques mois donc, et l'a livré. C'est le cas de le dire. Sur le Nil, sur le fleuve, et l'a déposé là. Quel déchirement pour cette maman. Dire à une maman d'abandonner celui ou celle qui est sortie de ses entrailles, c'est impossible. C'est pour ça que Dieu dit aussi autre part, mais quand même une femme abandonnerait son enfant, ce qui est déjà même impensable, moi je ne vous abandonnerai jamais. Et pour nous, c'est rassurant ce matin. Et cette dame, certainement remplie de larmes, eh bien, a fait cela parce que si elle ne le faisait pas, je l'ai dit, eh bien, c'était eh bien, toute sa famille qui y passerait. Certains pourraient peut-être même la juger et peut-être dire, mais ce qu'elle a fait, eh bien, c'est complètement insensé, inconscient, même dangereux. Dans le Nil, il n'y avait pas que des petits poissons. Hein. Il y avait entre autres les crocodiles, sans parler des hippopotames. Il y avait bien des dangers. Mais elle a néanmoins, et je pense que c'était une pensée évidemment de la part de Dieu, elle a déposé cet enfant eh bien, dans ce panier qui était là au gré eh bien, de l'eau. Et certainement, les yeux rougis par les larmes, elle s'est détournée et laissée cet enfant. Ça, il faut le dire, la réalité, c'est que cette femme n'avait plus trop le choix. Elle aurait continué à cacher cet enfant. Ça aurait été périlleux pour tout le reste de la famille. Mais je veux quand même saluer quand même le courage de cette femme. La foi qu'elle a eue déjà pour garder cet enfant 3 mois. On l'aurait fait, ça. Mais j'ai l'impression que par ce geste, parce que je pense que c'était une pensée de la part de Dieu, par ce geste, Dieu voulait l'encourager à pouvoir manifester une foi encore beaucoup plus grande à l'égard de cet enfant. Certainement, avant de faire eh bien, ce geste, déposer cet enfant au gré du Nil, eh bien, certainement, je vois Jochebed avec son mari et peut-être eh bien, Aaron et puis Marie, eh bien, sa sœur, ensemble prier. Seigneur, nous te recommandons cet enfant. Seigneur, nous sommes arrivés à la limite de ce que nous pouvions faire. Maintenant, Seigneur, je voudrais eh bien, que tu prennes le relais et que tu t'occupes de cet enfant. C'est exactement ce que Dieu voulait entendre de la bouche de cette femme. Et même si elle n'avait pas exprimé cette prière, finalement, en déposant ce panier, c'est ce qu'elle a fait. Et c'est peut-être ce que Dieu te demande de faire ce matin. Et je m'adresse aux femmes. Je m'adresse aux parents. C'est peut-être à un moment donné de passer le relais à Dieu. Tu as fait tout ce que tu as pu jusqu'à cette heure pour tes enfants. Mais Dieu te demande un acte de foi beaucoup plus grand, c'est-à-dire de lui confier à lui à tes enfants. Comme si le Seigneur ce matin te dit, ma fille, mon fils, donne-moi tes enfants. Tout à l'heure, on était en train de prier, je pensais en plus à ce problème qu'avait aussi cette femme. Elle s'est retrouvée devant le roi Salomon avec une rivale. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un litige. L'une disait, c'est mon enfant, et l'autre disait, non, c'est le mien. Juste à un moment donné, Salomon, rempli de la sagesse, qui est aussi l'image eh bien, du Seigneur Jésus, va dire, donne-moi cet enfant. Et parce que cette femme, cette maman, a confié son enfant, elle a pu le récupérer par la suite, et d'une manière extraordinaire. Vous savez, quand on confie quelque chose entre les mains du Seigneur, ou quelqu'un, quelqu'une entre les mains du Seigneur, c'est la plus belle chose que nous pourrions faire. Vous savez, nous, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. On est là avec nos calculs et on a besoin, quelque part, j'ai envie de dire, de lâcher prise. Elle aurait gardé cet enfant, ça aurait été périlleux, non seulement pour l'enfant, mais tout le reste de la famille. Il fallait maintenant eh bien, qu'elle puisse déposer. J'ai envie de dire, pour extrapoler, eh bien, au pied du Seigneur, devant son trône de grâce, tout ce qui peut être un fardeau ou un souci dans ton cœur. Dieu connaît la peine, Dieu connaît les larmes eh bien, de votre cœur. Et il te dit, tout comme Jochebed et tout comme Amram, confie-moi, alléluia, tes enfants. Et lorsqu'on le fait, on n'est jamais déçu, parce qu'on le voit, eh bien, donc à la suite du texte, vous le lirez tranquillement chez vous, comment Dieu avait déjà tout préparé. Cette maman a déposé eh bien, ce panier avec ce bébé qui certainement peut-être était en train de pleurer. Et bizarrement, la fille du roi Pharaon avait décidé de prendre un bon bain. Il n'y avait pas de piscine à l'époque. Et il fallait aller au Nil. Comme par hasard, certains diraient, elle est partie au bon endroit, au bon moment. Parce que Dieu avait déjà tout préparé. Et ce sont les servantes de cette fille eh bien, du roi Pharaon qui, à un moment donné, ont trouvé cet enfant. Et de fil en aiguille, Moïse s'est retrouvé où ? Dans la cour du roi. Dieu avait déjà des projets pour cet homme, Moïse, sauver des eaux. Parce que Moïse veut dire sauver des eaux. C'est la fille du grand roi Pharaon qui l'a dit, je l'appellerai Moïse. C'est parce que je l'ai sauvé des eaux. Tu n'as rien sauvé du tout. C'est Dieu qui s'en est occupé. Et il fallait qu'il soit formé. Vous savez que la Bible, les commentateurs sont d'accord pour dire que les 5 premiers livres ont été écrits par eh bien, Moïse. Et on peut comprendre que cet homme qui est parti eh bien, à deux reprises pour rester 40 jours et 40 nuits au-dessus de la montagne, eh bien, ne pouvait que recevoir toute la révélation de comment le monde a été créé. Il fallait un homme instruit et Dieu a permis que Moïse soit eh bien, dans ce qu'était l'école la plus haut placée de l'époque pour être formé. Mais mieux encore, Dieu avait un plan encore plus extraordinaire parce qu'il voulait utiliser ce petit Gboutchou qui était menacé de mort pour faire de lui un grand libérateur. Vous savez, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient environ un million à sortir en comptant les enfants et puis tout le ramassis parce qu'il y a des Égyptiens qui sont aussi partis avec le peuple hébreu. Et hein, ils ont réfléchi. Après les 10 plaies, ils ont dit, attends, ce Dieu-là, il est puissant. Et ils sont tous partis. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire avec ce que nous lui confions entre les mains? Jochébed a vu la gloire de l'Éternel. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Confie ta vie. Confie tes enfants. Confie ce qui te fait mal. Mon frère, ma sœur, fais un acte de foi. Le Dieu qui est fidèle, eh bien, la promesse qu'il t'a donnée, il est capable eh bien, de l'amener à sa réalisation en son temps. Mais ce qu'il nous dit aujourd'hui au travers de l'exemple de Jochébed, c'est, alléluia, quand c'est plus fort que nous, soyons assez humbles et pleins de foi pour lui donner le relais. C'est important. Tu continues à tenir. Et en même temps, tu dis, Seigneur, mais tu fais rien. Mais justement, il veut intervenir. Mais il faut d'abord que tu lâches. Jusqu'à maintenant, tu as mené les choses. Et on voit Jochébed, c'est une maman qui parle, qui veut sauver. Mais à un moment donné, maintenant, laisse-moi faire. Ce que tu as fait, c'est extraordinaire. C'est déjà un acte de foi. Maintenant, laisse-moi faire. Fais-moi confiance. Je voudrais terminer ce matin, puisque je vous ai parlé de trois exemples. Il y en a un troisième et dernier qu'on retrouve encore dans le chapitre 11. Alors un peu plus bas, c'est à partir du verset 32. Hébreux chapitre 11, du verset 32 à 35. Et on lit ensemble. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. C'est toujours l'auteur du livre d'Hébreux qui énumère tous ces exemples d'hommes et de femmes remarquables de par leur foi. Et il rajoute au verset 35, première partie de ce verset, « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. » Là, j'aurais aimé entendre un amen. Hein. On aurait pu lire des hommes. Pourquoi des femmes? Ah, j'ai pas de réponse. Hein. Mais il écrit des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Et d'autres furent livrés aux tourments. Etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Autrement dit, ces femmes ont su manifester une telle foi en Dieu qu'elles ont pu quelque part assister littéralement à la résurrection de certains membres de leur famille. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si l'auteur du livre d'Hébreux faisait mention à deux femmes dans l'Ancien Testament qui ont vécu eh bien, cette expérience. Il y a premièrement la femme de Sarepta. Et pour ceux qui veulent lire chez eux, il y a cette référence, 1 Roi chapitre 17, qui raconte l'histoire de cette femme extraordinaire. Extraordinaire. Et qui a vu la résurrection, alléluia, de son enfant, de son fils, bien par l'intermédiaire du prophète Élie. Et puis un autre exemple, c'est la femme de Sunem, la Sunamite. Dans 2 Rois chapitre 4, du verset 17 à 37, pour ceux qui prennent des notes, 2 Rois chapitre 4, verset 17 à 37, elle aussi a vu son enfant être littéralement ressuscité. Une femme de foi aussi. On ne connaît pas trop son prénom, mais elle aussi, eh bien, on a raison de pouvoir l'ajouter eh bien, dans ce listing. Cette femme, on lui a demandé, est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va, ta famille? Et elle répondait toujours, tout va bien. Pourtant, elle avait un mort chez elle. Mais elle avait confiance en Dieu. Et elle avait un seul objectif, c'est d'aller voir le prophète Élisée cette fois-ci. Parce que là, Élisée, l'image, bien sûr, le type même de Christ, c'est important. Eh bien, de pouvoir aller vers la personne qui pourra apporter solution à votre besoin. Elle a dit à tout le monde, tout va bien. Mais devant eh bien, le prophète, elle a répandu son cœur. Et elle aussi a vu la gloire de Dieu. Elle a vu littéralement une résurrection. Voilà, voici donc deux mamans, deux femmes qui ont eu assez de foi pour croire que Dieu pouvait ramener leurs enfants à la vie. Et leur foi en Dieu n'a pas été déçue parce que Dieu a honoré, bien sûr, la foi qu'elles ont mis à valoir. À une femme, Jésus a dit un jour dans Jean chapitre 11, verset 40, et vous savez de qui je veux faire mention, de Marthe. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi ? La gloire de Dieu. Et je voudrais terminer en ces instants, m'adresser aux femmes, parce que c'est votre fête, hein, mais dans le bon sens du terme quand même. Hein. Et je vais droit au but. Peut-être que votre enfant, votre fils ou votre fille, n'est pas mort physiquement, mais vous savez pertinemment qu'il est mort spirituellement. Autrement dit, votre fils ou votre fille, vos enfants, n'ont pas de relation, de communion avec Dieu. Vous savez, et cela vous attriste, qu'ils vont droit en enfer. D'ailleurs, même, vous envoyez les fruits de par leur vie. Et vous avez beau essayer de leur expliquer en long, en large, mais ça ne sert à rien. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable de changer les cœurs. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer les circonstances. Vous êtes ici présente, je parle des mamans chrétiennes, et vous avez vu vos enfants même tous passer les uns après les autres par les eaux du baptême, se sont engagés avec le Seigneur. Et aujourd'hui, ils sont là, dans le monde, mais plus dans l'Église. Ils sont là, happés par toutes sortes de séductions, ils se sont refroidis, ils ont comme tourné le dos au Seigneur. Et cela également vous attriste. Eh bien, Dieu veut te dire ce matin que rien n'est terminé. Vous savez, avec Dieu, rien n'est jamais terminé. Hein. Il est capable de changer le mal en bien, il est capable de changer les circonstances. Du désert, il fait rejaillir des sources qui viennent, on ne sait bien d'où. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu à qui rien n'est impossible. Il te rappelle qu'il est en mesure de pouvoir ramener à la vie même ce qui était mort jusqu'à maintenant. Jésus l'a dit, Jean 11, verset 25, « Je suis quoi ? La résurrection et la vie. » Il s'agit pour toi, ce matin, chère maman, de pouvoir confier. Et ça revient. Tous ces sujets de tristesse entre les mains du Seigneur. Peut-être tu te sens concerné, et pour toi la plus belle des fêtes ce matin, ce serait de revoir tes enfants, retrouver, alléluia, l'Assemblée des Saints, et chanter, louer le Seigneur comme on l'a fait ce matin. C'est pas impossible. Humainement parlant, c'est peut-être impossible pour toi, pour ton mari, pour ceux qui ont connu ces jeunes vies, mais c'est parfaitement possible à Dieu. Le Dieu qu'on sert, il est capable de nous étonner, de nous surprendre. Vous savez, je vais terminer par cela, on peut déjà baisser les têtes, baisser les yeux. Il y avait dans notre famille, on est famille nombreuse, vous le savez maintenant, on est 8 enfants, et ma maman, je la respecte, je ne sais pas comment elle a fait. Quand on se mettait à chahuter tous, quelquefois on arrivait à la mettre KO. Elle partait au lit, épuisée de fatigue. Ça chahutait par-ci, par-là, il y avait toujours une bêtise. 8 enfants, vous vous rendez compte ? Mais il y avait un de mes frères qui, à un moment donné, alors qu'il arrivait à la majorité, il a commencé à filer du mauvais coton. Il ne voulait plus venir dans les réunions de jeunesse et on constatait que petit à petit, il commençait à s'éloigner. Et les parents étaient quelque peu inquiets et voyaient que leur enfant leur échappait. Il y avait quelquefois des conflits dans la maison. Mais mes parents ne se sont pas découragés. Ils ont prié. Ils ont invoqué le nom du Seigneur. Et ce frère dont je fais mention, à un moment donné, lors d'un voyage, il a été complètement transformé, changé. Quand il est revenu, c'était plus le même. Et moi, pour avoir partagé sa chambre, je le reconnaissais même plus. Quelquefois, le soir, il m'invitait à avoir des moments de prière. Mais lui qui était complètement loin des choses de Dieu, il était en prière à genoux. Et il arrivait même à me dire à des moments, « Joël, je vois le Seigneur !» C'était un autre homme. Aujourd'hui, il sert le Dieu. Il est aussi responsable d'une église là-bas, sur la Martinique. Mais je dis cela, tout cela pour encourager. Peut-être quelqu'une, puisque je veux m'adresser particulièrement aux mamans, qui sont là attristées. Tes yeux peuvent voir des circonstances qui t'attristent dans la vie de tes enfants. je peux te dire que Dieu te demande maintenant de lever les yeux vers lui. Et tout comme Jochebed, si tu veux voir la gloire de Dieu, il est urgent pour toi, d'une manière spirituelle, de pouvoir laisser et passer le relais à notre Seigneur Jésus-Christ, à qui rien n'est impossible. Alléluia, gloire à Dieu. On va prier le Seigneur, on va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour, Seigneur, ces circonstances. Seigneur, c'est vrai, cette fête des mères, et je te loue et je te bénis pour toutes les mamans, Seigneur. Ô Père éternel, c'est toi qui as créé toutes ces choses. Pour que, Seigneur, Père mon Dieu, dans la matrice de la mère, Seigneur, puisse être en gestation, Seigneur, un enfant qui pendant 9 mois, Seigneur, est construit d'une manière miraculeuse. Quand vient le moment de l'enfantement, la maman qui se trouve dans les douleurs de l'enfantement et entre la vie et la mort, et tu accordes la vie et la joie des parents de voir un fils, une fille venir au monde, cela vient de toi. Et qu'elle n'est pas le déchirement, la douleur dans le cœur d'une maman de voir ses enfants petit à petit s'éloigner, se faire du mal, se meurtrir par la vie, être dérobé par des loups ravisseurs, par le diable qui n'a de cesse de détruire, de dérober et égorger. Seigneur, je te prie dans ta grâce de venir au secours, Seigneur Père, de ces mamans qui te connaissent, puisque ce sont tes filles, et qui portent dans leur cœur, Seigneur mon Dieu, Seigneur, de leurs enfants qui se sont égarés, de leurs enfants qui ont même abandonné tes voies, après même avoir s'être engagés en passant par les eaux du baptême. Je te prie pour toutes ces mamans de pouvoir créer et opérer le miracle ce matin. Nous te le demandons et nous savons que nous sommes dans ta volonté parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés. Je te prie de sécher les larmes de toutes ces mamans qui s'attendent à toi pour qu'une transformation, un changement puisse opérer dans le cœur de leurs enfants. Seigneur, tu vois ces enfants qui sont en danger. Tu vois ces jeunes hommes, ces jeunes filles, même ces personnes d'un certain âge qui se sont éloignées de toi. Ramène. Ramène dans ta bergerie. Seigneur, tu vois ceux et celles qui sont en conflit avec leurs enfants, ceux et celles qui sont séparés de leurs enfants, qui n'ont plus, Seigneur Père, même de contact, de relation avec leurs enfants. Seigneur, mon Dieu, viens réparer, viens restaurer. Tu as dit toi-même que, Seigneur, tu permettrais que les pères reviennent, Seigneur Père, mon Dieu, à leurs enfants, et vice-versa, que les enfants reviennent, Seigneur, mon Dieu, vers les pères. Et qu'il en soit ainsi à l'égard des mères, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de la réconciliation. Tu es le Dieu qui est capable de changer les circonstances. Alors manifeste-toi, glorifie-toi, et que nous ayons la joie d'entendre, Seigneur Père mon Dieu, de beaux témoignages, de la gloire de ton nom. Oui, je donne gloire à l'Éternel comme nous l'avons chanté. Gloire à toi, Seigneur. C'est toi qui vas intervenir et que tous ces jeunes, Seigneur, qui se sont éloignés de toi puissent revenir au bercail. Tel le fils prodigue qui rentre en lui-même a dit, alléluia, je retournerai vers mon Père. Qu'il en soit ainsi, opère ce miracle. Seigneur, nous te laissons, Seigneur Père, maintenant le relais et nous te faisons plus que jamais confiance. Seigneur Père, je te le demande au nom de Jésus, bénis toutes les mamans et qu'elles soient récompensées, consolées, Seigneur mon Dieu, de tout leur travail, de tout, Seigneur Père, ce qu'ils ont pu faire pour leurs enfants. Et Seigneur Père, mon Dieu, tu nous as laissé cette promesse, moi et ma maison, alléluia, nous serons sauvés. Seigneur Père éternel, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, amen.